franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les maisons hantées.
Le presbytère est hanté.
Presbytère, château, simple cottage, les portes de cette émission vont s'ouvrir sur un autre 19e siècle que celui qu'on décrit habituellement. Ce ne sera pas le siècle de la révolution industrielle, le siècle des révolutions politiques, mais un 19e sorti de ses gonds, le long 19e des maisons hantées, avec sa procession d'hommes en souffrance et surtout de femmes en pénitence, hommes et femmes de foi peut-être, mais de foi déracinée, hommes et femmes de raison sûrement, mais de raison tourmentée, âmes errantes à la recherche d'un home sweet home, mais qui ne trouvent dans leur maison qu'incarcération intérieure. Ben, ça s'annonce bien. Bienvenue au Spectre et bonjour donc à l'invité de l'histoire en marche arrière, j'ai nommé Stéphanie Sauget, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Agrégé, docteur, grande spécialiste des gares, c'est un sujet ça, les maisons hantées?
Oui, c'est un vrai sujet, si on les considère comme un lieu pour repenser, relire le 19e siècle, essayer de comprendre ce long 19e siècle, effectivement, que vous avez annoncé, à travers un sujet qui m'intéresse en tant qu'histoire sociale et culturelle, c'est-à-dire... Ce qui m'intéresse, ce sont les lieux que les contemporains ont considérés comme hantés. Et ce qui permet aussi de faire un sujet d'histoire, c'est d'avoir des archives, d'avoir des sources, d'avoir des contemporains qui ont parlé, qui ont étudié, qui ont essayé de se confronter sur le sujet. Or, il se trouve que des archives, des témoins qui parlent de maisons hantées, il y en a beaucoup au XIXe siècle.
Et bien nous aussi, on a beaucoup d'archives sonores. Vous allez les écouter, Stéphanie Sauget, en même temps que vous allez présenter quelques-uns des éléments du très beau livre que vous venez de publier chez Talendier, intitulé « Les maisons hantées », la hantise, vous pouvez en donner une définition?
Alors la hantise, pendant très longtemps, ça a signifié simplement fréquenter. Petit à petit, fréquenter plutôt en mauvaise part, comme on fréquente les mauvais lieux, on fréquente les bars. Donc voilà, c'est une espèce de présence assidue. Et puis, à partir du milieu du 18e et surtout du 19e siècle, sous l'influence anglaise, le mot de hantise a fini par signifier plutôt la fréquentation des fantômes, des âmes errantes ou des poltergeists.
Alors, poltergeist?
Poltergeist, oui. Esprit c'est frappeur, ça, tout à fait.
Écosse, Angleterre, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, c'est ça. Votre espace, c'est l'inscription dans le temps, c'est le long 19e siècle. Aujourd'hui, le sujet est devenu inactuel. On va commencer en comptant la monnaie qui demeure de la grande fabrique très riche de maisons hantées du 19e siècle. Oui, le sujet, il est devenu inactuel.
Aujourd'hui, les maisons hantées ne font plus vraiment parler d'elles, à part dans les films au cinéma ou bien les attractions touristiques, hein, puisque la maison hantée est une attraction phare, par exemple, du parc Disneyland, qui est ouvert un petit peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que des grandes histoires de maisons hantées, on n'en entend plus beaucoup, en tout cas dans ces espaces-là. Et effectivement, ça semble être résiduel. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de montrer que le 19e siècle est à la fois, nous en sommes à la fois les héritiers et en même temps, il est terriblement éloigné de nous.
Nous en sommes les dissipateurs. Camille Poux-Jalaguier a fait une recherche dans les archives de la radio. Alors de temps en temps, il y a quelques histoires de maisons hantées qui flottent encore dans le sillage des journaux. Mais c'est vraiment quand on n'a rien de mieux à faire que d'observer ces épaves d'autrefois. Deux exemples dans les années 1950.
Ici Dissalignon à Lille RTF. Je me trouve actuellement dans une petite maison de la cité de la Renaissance à Los, dans la banlieue de Lille. Je me trouve chez Madame Delbecq, en butte aux attaques des esprits. Elle ne peut pas les nommer, elle ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de visage, il n'y a rien. Il y a simplement des coussins qui volent dans la pièce, des matelas qui sont renversés, une assiette qui se promène et qui va d'une chaise sur un lit, d'un lit sur une chaise. Madame, dites-moi, comment ça a commencé?
Ça commence un soir, il est environ 10h, 10h30, j'étais couchée. Et le lit a commencé à bouger, à gratter, et ils le sont mis à danser.
Est-ce que vous pouvez nous donner un petit écho du bruit que produisait ce fantôme? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ça faisait ça.
À ce point-là, vraiment.
Madame Deveau va nous dire elle-même combien elle a eu à regretter d'avoir loué la maison où était mort Pierre-Louis.
Nous avons commencé par voir dépérir tous nos valets cuisiniers les uns après les autres. Ça en a fait 7 en 3 mois qui étaient bons à jeter carrément aux ordures, absolument comme de vieilles loques. L'un, qui avait été blessé il y a 20 ans, se portait parfaitement bien depuis 20 ans. Dès qu'il a été chez nous, sa blessure s'est rouverte. Le second a été écrasé par un autobus rue de Rennes. Le troisième est devenu jaune comme un citron et s'est penché tous les jours un peu plus vers la terre. Le quatrième avait plus de 40 degrés de fièvre et quand il nous servait à table, les fourchettes et les cuillères jouaient des castagnettes dans les assiettes, tellement il tremblait de fièvre. Mon frère a failli mourir en vidant tout simplement un vase de fleurs qui a fait explosion. Qui a explosé lui a coupé le poignet et il ne peut plus jouer au tennis depuis. Et alors, de mon côté, c'était encore beaucoup plus tragique. Je ne pouvais plus du tout respirer et, pour ainsi dire, pas avaler.
Alors, petit fait de radio à l'aune d'aujourd'hui, peut-être, mais alors grand, petit fait d'hiver à l'aune d'aujourd'hui, mais grand moment de radio. L'un concerne la banlieue de Lille et puis l'autre, une maison à Paris, celle de Madame Deveau, qu'occupait le poète sulfureux Pierre-Louis.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages, ce sont des femmes qui les font.
Des femmes
voilà,
qui font parler les maisons.
Voilà, exactement. Moi, ce que j'ai observé, c'est que petit à petit, au long du 19e siècle, ce sont les femmes qu'on va petit à petit commencer à regarder avec beaucoup d'attention. Soit ce sont les médiums qui réussissent à faire parler les maisons hantées, soit ce sont elles qu'on va finir par considérer comme les folles du logis. Hein. Donc effectivement, le fait que ce soit des femmes qui portent ces témoignages est intéressant. La deuxième chose qui me frappe, c'est ce qu'elles considèrent comme de la hantise, c'est-à-dire les objets qui volent dans les pièces, des bruits insolites, et puis des petits faits, des fleurs qui fanent, des incidents qui se reproduisent, et qu'elles finissent par lire comme une hantise. Là aussi, c'est très net de ce qu'on observe à partir de la seconde moitié du 19e siècle, une multitude de faits qu'on va relier à des phénomènes plutôt de poltergeist, hein, d'esprits frappeurs, d'esprits farceurs éventuellement, parce que ce ne sont pas des hantises inquiétantes. On n'est pas dans une maison qui a accueilli un cadavre, une maison maudite. On est plutôt dans la maison gentiment infestée par un esprit malin.
Et ce sont des maisons de toute catégorie, une maison de la banlieue de Lille. Et puis une maison de la grande bourgeoisie où défilent les valets de pied.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça aussi, c'est une autre caractéristique qui est très nette au 19e siècle, même si beaucoup considèrent que la croyance des maisons, enfin la croyance aux maisons hantées, ne peut être le fait que d'une petite minorité superstitieuse habitant dans les provinces. On se rend compte que les histoires de maisons hantées au 19e siècle concernent tous les espaces, les grandes villes, les villes moyennes, les petits villages, mais aussi toutes les catégories socio-professionnelles.
En quoi le 19e siècle est-il un terreau? Vous dites que c'est le siècle de tous les déracinements, d'où l'importance de l'habitation.
Oui, il y a plusieurs raisons qui me font considérer le 19e siècle d'une manière spécifique. La première, c'est le fait qu'effectivement, la maison hantée va être considérée comme un problème, parce qu'on est quand même dans un siècle de rationalisation, de déchristianisation. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le 19e siècle est un siècle, certes déchristianisé, mais où va demeurer une assez forte culture religieuse, où va demeurer également ce que vous appeliez, hein, effectivement, un siècle de la mélancolie, un siècle où l'on pleure ses morts, où l'on a du mal d'ailleurs à retrouver les corps de ceux qui ont péri soit pendant les massacres révolutionnaires, soit pendant les grandes guerres napoléoniennes, les grandes batailles napoléoniennes, pour parler de la France. Et puis
en France, on comprend bien que le terreau catholique est favorable, les apparitions mariales, les démons
qui se multiplient au 19e siècle,
les rencontres régulièrement dans son presbytère, mais le protestantisme anglo-saxon. Parce que l'espace est double pour maisons
hantées. Oui, alors le protestantisme, c'est vrai que on le connaît plus réticent vis-à-vis des apparitions, pas de culte marial, pas d'intercession de saints. On a l'impression que, on va dire, les frontières entre le monde des vivants et le monde des morts est quand même un peu plus hermétique. Et en même temps, le fondateur du méthodisme anglican habitait une maison hantée et les hantises sont importantes aussi dans le monde protestant.
Aller-retour entre les deux continents, le spiritisme. Alors là, on est chez les hommes de raison et pas nécessairement chez les hommes du catholicisme ou du protestantisme. Ou alors, si c'est chez des chrétiens, c'est chez des marginaux. Le spiritisme, il vient des États-Unis pour être greffé en France.
Alors bon, évidemment, c'est objet de débat, puisque finalement, on peut considérer, comme le fait Nicolas Dolman, le spiritisme ou le spiritualisme comme un point final plutôt qu'un point de départ. Mais c'est vrai que les Américains mettent en place ce qu'ils appellent le spiritualisme moderne, qui naît au milieu du 19e siècle, avec une histoire de maison hantée, celle des sœurs Fox, en 1848. Et cette histoire de maison hantée va être diffusée très très rapidement en Europe, avec notamment la vogue des tables tournantes, et l'utilisation de ces techniques anciennes, mais qui vont être remises au goût du jour, des techniques de nécromancie, de dialogue avec les esprits, à force de coups frappés, avec des tablettes également, sur lesquelles des objets, comme des verres par exemple, se déplacent pour inscrire des messages. Tout un tas de techniques qu'on connaissait déjà, mais qui vont être revues différemment parce qu'on les considère comme une sorte de télégraphie spirituelle. C'est-à-dire que les inventions modernes du 19e siècle vont désormais permettre de revoir autrement ces techniques.
Et de voir comment circulent les esprits entre eux. Je vous ai annoncé les archives sonores, alors je frappe les trois coups. Voici un extrait du Tribunal de l'Impossible. C'était une grande série pilotée par Jacques Subiela. L'épisode dont on va entendre quelques moments a été diffusé en 1968. Se déroule à la fin de la grande époque des maisons hantées. On est au début de la fin plutôt des années 20 en Angleterre, dans un presbytère. Les presbytères sont souvent plus hantés qu'à leur tour. Le pasteur et sa femme reçoivent une charmante vieille demoiselle, c'est Hélène Dieudonné, qui occupait avant eux le presbytère.
Nous sommes en Angleterre en 1929.
Si vous saviez quel plaisir c'est pour nous de nous retrouver pour un moment dans cette maison. Nous l'avons habitée près de 70 ans.
Vous avez vu, n'est-ce pas, dans quel état est cette pauvre maison?
À ce propos, je ne vous cacherai pas, nous avons été surpris et nous voulions seulement vous demander l'autorisation de faire quelques réparations à nos frais.
Oh, mais tout ce que vous voudrez. Oh, ce serait merveilleux. Et vous sauriez, vous, Mr. Smith, mettre en état les canalisations, les chaudières et tout ça?
Seigneur, non. Mais il ne manque pas de gens très compétents pour le faire.
Des ouvriers. Et où les prendront-ils?
Dans le pays. Il me semble y avoir vu tous les corps de métier.
Allons, Mr. Smith, vous voulez rire. Même s'il mourait de faim, il ne viendrait pas travailler ici.
Mais pourquoi donc?
À cause de la réputation de la maison, voyons. Le presbytère de Borlet est hanté.
C'est très documenté, l'affaire de Borlet, aux archives. Quels genres d'esprits peuvent habiter là?
Alors en fait, c'est vrai que cette histoire de Borlet, dont je ne parle pas dans le livre, mais qui est une histoire importante, qui a été beaucoup étudiée, c'est une histoire de hantise sur une longue période. Et il y a plusieurs types de fantômes. C'est un bon syncrétisme, on va dire, de fantômes. Il y a des fantômes classiques issus de la littérature gothique. Donc on voit par exemple une nonne qui aurait été assassinée dans le presbytère, qui serait française. Bon, alors évidemment, on peut penser à toutes les histoires de nonnes ensanglantées de la littérature fantastique, hein, depuis le moine de Lewis.
Mais ça peut aussi être un pasteur de la lignée des pasteurs qui a occupé le presbytère.
Voilà, donc disons qu'on a ce premier fantôme classique qui est une âme errante échappée du purgatoire qui n'a pas pu être enterrée de manière satisfaisante et qui donc erre jusqu'à ce que finalement elle puisse trouver son dernier domicile. au paradis ou en enfer. Bon. Donc ça, c'est une première figure classique héritée du mouvement, enfin du diagnostic plutôt religieux de la hantise. Et puis, il y a d'autres types de hantise dans ce presbytère. Ce sont de ce qu'on appelle plutôt des poltergeists, hein, c'est-à-dire des esprits frappeurs. Et ces esprits frappeurs, ils vont surtout être observés par le spiritisme, le spiritualisme moderne, c'est-à-dire ces esprits éventuellement soit farceurs, soit malins, soit des esprits de chair disparue.
Alors différent. On va faire appel pour essayer d'identifier les esprits tragiques ou farceurs à un médium.
En janvier 1932, les membres du groupe spirite de Markstay entreprenaient d'exorciser le presbytère. Ils étaient accompagnés d'un médium de grand renom.
Esprit que nous avons recherché à travers toute cette maison. Esprit que nous avons suivi jusqu'ici pour t'aider à porter ton fardeau. Dis si tu es maintenant parmi nous.
Réponds-nous !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et oui, avec Stéphanie Sauget, les maisons hantées aujourd'hui. C'est un métier, chasseur d'esprit, là, jusqu'aux années 1910-1920.
Oui, disons qu'il y a de plus en plus de gens qui s'occupent de fantômes avec des compétences différentes dans l'Église, chez les chrétiens, ce sont des exorcistes qui sont une catégorie très particulière de prêtres. Hein, n'importe qui ne peut pas faire d'exorcisme.
Mais là,
et chez
à
les
Borlée...
spirites, ce sont des médiums. Les médiums, ça peut être a priori n'importe qui. Ce sont souvent des femmes, mais pas uniquement. Ça peut être des enfants aussi, les adolescents sont souvent de bons médiums. Et on les considère vraiment comme un instrument, une chambre de résonance à la frontière entre notre monde et le monde de l'au-delà. Donc c'est un outil pour faire parler ces esprits.
Autre outil, c'est la table tournante. Toujours un extrait du tribunal de l'impossible.
Voulez-vous répondre à nos questions ? En frappant un coup si la réponse est non, trois coups si elle est oui, et deux si vous ne la comprenez pas ou ne pouvez y répondre.
Êtes-vous la religieuse enterrée dans le monastère ?
Ce n'est pas elle. Êtes-vous quelqu'un mort au presbytère ?
Qui est mort au presbytère ?
Le révérend Henry Bull, le premier pasteur, probablement.
Êtes-vous le révérend Henry Bull ?
Connaissez-vous la religieuse qui hante aussi cette maison ?
Il ne sait pas de qui nous voulons parler.
Voilà, c'était un exercice de typologie, de télégraphie spirituelle et comme... On enjambe les temps, voici maintenant inattendu.
Let's plunge ourselves into the mysteries of spiritualism.
Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué.
Et l'esprit frappeur a frappé.
Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ?
Le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là.
Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides. Et recommençons-nous, c'est pas que le chat gâcha. Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit quand une dame poussa un cri.
Ça y est, je le sens, c'est lui.
Mais non, voyons.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Mais le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là ? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide.
le médium, alors se fâchant, il chassa le chat.
Et alors, une voix dit
miaou, me voilà.
Quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là,
dans la queue du
chat, dans la queue du chat, dans la queue du chat.
C'est vraiment la marge de l'histoire. Les maisons hantées, c'est un vrai sujet d'histoire. Stéphanie Sauget le prouve dans un livre chez Talendier. Il y a combien de maisons hantées, d'ailleurs, si on les recense? Un commandant de gendarmerie avait voulu faire l'exercice en France.
Il y a énormément de maisons. Difficile maintenant de s'entendre sur un chiffre, car en fonction des chasseurs de fantômes, ça change un peu. Les chiffres sont importants et tout dépend, là encore une fois, de ce qu'on appelle un fantôme et de ce qu'on appelle une maison hantée.
Et qu'est-ce qu'on appelle une maison à hanter ?
Alors une maison à hanter, c'est vraiment dans le milieu du spiritualisme moderne et du spiritisme. C'est une maison qui va servir en fait de lieu de communication avec les esprits. Et les premières apparaissent dans les années 1850-1860 plutôt, dans le centre des États-Unis, avec par exemple la cabane de la famille Coons dans l'Ohio.
C'est une piège à... Un piège à...
Alors ça s'appelle le Spirit Room, c'est-à-dire c'est une pièce qu'on va construire spécialement pour attirer les fantômes et pour entrer en communication avec eux.
L'exemple le plus connu, c'est à l'ouest des États-Unis avec Sarah Winchester. Elle a perdu tous ses proches un à un. Ils animaient la compagnie d'armes à feu Winchester bien connue. Alors folle de chagrin, elle consulte un médium qui lui révèle qu'elle est poursuivie par les esprits des personnes tuées par... La carabinée.
Sarah se sent coupable parce que sa famille a été impliquée dans la mort de milliers d'êtres humains.
Après la mort de son mari, Sarah se rend à Boston pour demander l'aide d'un voyant. Les esprits de ceux qui sont morts de ces carabines vous veulent du mal, lui explique-t-il. Allez vers l'ouest et bâtissez une maison pour les calmer. Des esprits positifs vont vous aider. Si vous arrêtez la construction, vous allez mourir. En 1884, Sarah se rend aux limites de San José, en Californie. Elle y achète une maison de campagne de 8 pièces. Elle allait passer le reste de sa vie à l'agrandir. Elle engage des charpentiers, des maçons, des vitriers, des jardiniers. Durant près de 40 ans, ces gens travaillent sans relâche à la construction. La maison est comme un grand labyrinthe de corridors qui montent et descendent sans raison, sans jamais mener nulle part. Des escaliers qui conduisent au plafond, des armoires trop petites et des armoires trop grandes. Sarah joue à cache-cache avec les fantômes de victimes d'armes à feu. Sarah a sa façon à elle d'apparaître soudainement, comme si elle venait de passer à travers un mur. Et son fantôme en fait peut-être autant aujourd'hui.
Oui, on a typiquement, encore une fois, une histoire où, cette fois-ci, ce qui va intéresser, c'est aussi bien la maison en elle-même, qui est particulièrement étonnante et qui va changer d'allure et d'aspect de jour en jour, de mois en mois. Mais ce qui va frapper également les contemporains, c'est la personnalité de cette femme, car finalement, elle pose beaucoup de questions. C'est une femme qui a connu beaucoup de chagrin, mais n'est-elle pas devenue folle? On se retrouve à nouveau avec cette fameuse question de la maison en qui est peut-être une maison qui recèle surtout une grande malade. Donc,
La maison devient musée. Il y a un site internet, patrimonialisation. Rien de tel pour chasser le fantastique.
Oui, effectivement, les émissions vont très vite s'accumuler sur cette maison de Sarah Winchester qui va être achetée à la mort de la veuve et qui va tout de suite être... On va tout de suite imaginer pouvoir en faire une sorte de musée. Et dès les années 1950, on va retrouver de très grandes émissions télévisées qui lui sont consacrées. Il y a eu de nombreuses émissions américaines sur la maison de Sarah Winchester.
Alors, muséification, c'est la fin quand il y a muséification. Il y a eu contestation aussi. Bon, le presbytère de Borlay, il va brûler en 1939. Winchester, elle meurt auparavant. Ça y est, le phénomène a atteint son maximum d'extension. Qu'est-ce qui va le faire reculer ?
Déjà, à partir des années 1880, le nombre de fraudes et de supercheries qui sont découvertes vont porter des coups d'arrêt à ceux qui plaident en faveur de ces maisons hantées. Et par exemple, hein, les spirites et les spiritualistes vont être de plus en plus réticents à parler de maisons hantées et à les utiliser pour faire connaître le spiritisme ou le spiritualisme. Et puis donc, effectivement, il y a de grandes affaires comme celle de Borlée, par exemple, où on va remettre en cause la personnalité même du chasseur de fantômes.
Le médium qu'on entendait tout à l'heure.
Voilà, donc Harry Price qui va engager une équipe autour de lui. Et donc le relais va être pris soit par les musées, soit par les films. Par exemple, le film La Maison du Diable, qui adapte la hantise de Chorley. Eh bien, cette histoire, elle s'inspire beaucoup de celle d'Harry Price. Hein. On va retrouver le médium avec son équipe qui va enquêter.
Oui, mais la maison devient une niche quand même.
La maison devient effectivement une niche, car il me semble que le 19e siècle est bien le siècle qui va à la fois essayer de sonder le problème par tous les bouts et qui, au final, va réduire les conditions de possibilité d'existence de la maison hantée à une niche. Hein. C'est finalement cet effort et c'est cette lutte fratricide entre différentes conceptions, différents experts qui, à mon sens, va réduire la possibilité réelle d'existence des maisons hantées.
Jacques Cigale, Franck Martin, Camille Poux, Jalaguier, Franck Olivard, c'est l'équipe de La Marche de l'Histoire. Vous salue galamment et vous remercie, Stéphanie Sauget.
Merci.
À sa manière d'avancer, à sa façon de balancer les hanches quelque peu convexes, je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau sexe. Mon Cupidon qui avait la flèche facile en ce temps-là fit moucher le feu sur les tempes. Je conviais sournoisement la belle à venir un moment voir mes icônes, mes estampes. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mes foins des délices de capoue, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.
Alors je voulais en même temps que je vous remercie indiquer qu'il y a un certain nombre de sites qu'on peut consulter, notamment celui de la maison de Sarah Winchester sur notre propre site, et puis redire le titre de votre livre, Les Maisons Hantées, chez Talandier. Mais c'est beaucoup plus qu'un livre sur les maisons hantées, c'est un livre sur l'envers du 19e siècle tel qu'on le représente généralement. Ça ressemble un peu à la maison de Victor Hugo à Guernesey. Vous savez, la façade, elle est très régulière, hein, Stéphanie Sauget. Et puis, à l'intérieur...
Oui, elle est surprenante. Elle est destinée à glacer celui qui la pénètre.
Il y a des culs de bouteille, tout est à l'envers. Les glaces modifient votre silhouette. C'est ça, peut-être aussi, le vrai 19e siècle.
Ça y est, je le sens.